On a fait une analyse qu'on vient de présenter aujourd'hui. On peut dire qu'on a estimé que presque 5 millions d'emplois, 30% de la population active en Ukraine, ont été perdus par rapport à la situation d'avant conflit. On peut dire qu'il y a pas mal de travailleurs et de travailleuses qui sont déjà sortis du pays et sont maintenant à l'étranger, surtout dans les pays de l'Union européenne, mais aussi dans des autres pays dans la région, disons, à côté de l'Ukraine. On peut dire que si les hostilités vont s'intensifier, le nombre d'emplois perdus s'élèvera presque à 7 millions. Ça, c'est l'analyse qu'on a faite et qu'on a présentée aujourd'hui. Toutefois, si les combats devront cesser immédiatement ou dans les prochaines semaines, une reprise rapide sera possible. Et on peut dire, on estime que 3,5 millions d'emplois peuvent être recouvrés dans l'économie ukrainienne.
Donc, c'est une réalité qui pourrait être reversée assez facilement si les combats venaient à s'arrêter.
Oui, on peut dire que l'économie ukrainienne a les possibilités de retourner à des niveaux pas très proches avant la crise, mais disons d'une façon plus progressive, il peut retourner dans une situation pré-crise. Bien sûr, il faut se rappeler qu'il y a encore des problèmes qui sont liés à l'aspect COVID. Il faut aussi dire que les travailleurs et les travailleuses ukrainiennes ont un bon niveau de formation. Alors, il y a aussi la possibilité pour les travailleurs et les travailleuses qui sont maintenant dans les pays de l'Union européenne de trouver un travail là, parce que l'Union européenne a donné une possibilité aux réfugiés ukrainiens de s'établir dans les pays de l'Union européenne et surtout d'avoir tout de suite un permis de travail. Alors surtout dans le secteur de la santé, du tourisme, de l'éducation, nous on connaît que le niveau de formation des travailleurs et des travailleuses ukrainiennes est très bon. Alors peut-être ils peuvent s'intégrer dans des économies qui sont très besoin des travailleurs qui ont les formations que les travailleuses et les travailleurs ukrainiens ils ont disponibles. Alors ça peut être un petit peu aussi un avantage pour les marchés du travail européens de profiter de la situation maintenant en Ukraine et offrir des possibilités de travail dans l'Union européenne. De l'autre côté, on peut dire qu'on est très préoccupé par la situation de travailleurs et travailleuses de l'Asie centrale qui sont maintenant en Russie, dans la Fédération russe. Alors, comme tout le monde peut remarquer, il y a des estimations de la chute de l'économie russe dans le cadre des 8-10% au minimum des produits nationaux. Et alors, on peut dire qu'il y a beaucoup, presque 10 millions de travailleurs et de travailleuses de l'Asie centrale qui sont maintenant dans la Fédération russe et il y a les possibilités qu'ils perdent leur travail dans les conditions qui peut-être vont être affrontées par le marché du travail de la Fédération russe dans les mois prochains, surtout à cause de la guerre, à cause des sanctions qui sont là sur la Fédération russe au moment.
Donc, les travailleurs d'Asie centrale sont davantage dans une situation précaire. L'OIT souligne que le gouvernement ukrainien tente de maintenir son système de protection sociale. Comment faire en plein conflit?
C'est vrai, le gouvernement de l'Ukraine est actif. Il n'est pas un gouvernement qui n'est pas actif. Nous, on est en contact presque quotidien avec le gouvernement, en particulier le ministère du Travail, mais aussi les syndicats et la Fédération des entreprises. Alors, ils ont pris des mesures pour garder un système de protection sociale. Bien sûr, il n'y a pas de possibilité limitée du point de vue des finances. Alors, on prévoit que pour les prochains 3, 6 mois, il y a encore des possibilités de payer les pensions, de payer des autres parties du système de la protection sociale. Mais après ça, s'il n'y a pas vraiment un retour à l'économie plus ou moins normale de l'Ukraine, on peut dire qu'il y aura un problème sur le système de protection sociale. Bien sûr, les institutions financières comme le Fonds monétaire mondial et la Banque mondiale, ils sont là déjà, disons, pour aider l'économie ukrainienne, mais on pense que si dans les prochains 3, 6 mois, il n'y a pas une cessation des hostilités, on aura des problèmes sur le système de protection sociale, surtout sur le système des pensions et sur le système de la santé.
Et juste un détail, en fait, ces paiements se font de façon électronique, tout est passé à l'électronique.
Oui, alors on peut dire que le système ukrainien s'est bien adapté rapidement au système de transaction électronique. Bien sûr, maintenant, l'infrastructure de télécommunication est encore, disons, bien placée dans le système ukrainien. S'il y aura un problème sur le système de communication, bien sûr, le système digital des paiements ou des transactions des finances ou pour payer même, comme j'ai dit, les systèmes de protection sociale, s'il n'y a pas un système digital qui marche du point de vue de l'infrastructure, encore une fois, on peut trouver des problèmes, on peut avoir des problèmes du point de vue de la stabilité du système.
À quoi appelle l'OIT?
Bon, alors, les rapports qu'on a présentés aujourd'hui, il y a 4 ou 5 actions immédiates qu'on a déjà commencé ou on conseille de continuer et, disons, gérer dans une façon même plus importante. Bien sûr, faciliter les initiatives des organisations d'employeurs, des travailleurs, afin qu'elles puissent jouer un rôle important et en apportant un soutien humanitaire et en assurant la poursuite du travail dans la mesure possible. Ça, c'est la première. Deuxième, c'est de fournir un soutien ciblé à l'emploi dans les zones relativement sûres de l'Ukraine, notamment en s'appuyant sur les programmes permanents parrainés par le gouvernement pour relocaliser les travailleurs et les entreprises. Et alors, là, l'IBT encore, elle travaille avec les partenaires locaux. Troisième, soutenir les systèmes de protection sociale, comme on vient de parler, en Ukraine, pour s'assurer qu'ils continuent à verser des prestations, on a déjà parlé, y compris les transferts en espèces nouvellement établis ou assurer que le système digital, comme on a dit, il est bien placé. Et enfin, quatrième, on peut dire qu'on peut commencer déjà à préparer une stratégie de reconstruction post-conflit, comme on a dit, qui encourage la création d'emplois décents et productifs grâce à des investissements importants à fond en densité d'emploi.
Merci beaucoup, Maurizio Bussi. Vous avez évoqué le sort des travailleurs d'Asie centrale en Russie face aux sanctions et la chute de l'économie russe. Est-ce que l'OIT apporte un appui? Est-ce que l'OIT est impliqué? À quoi
oui, bien sûr, pas dans la Russie, parce qu'on a une résolution du conseil d'administration du BIT qui nous empêche de travailler à l'intérieur de la Russie en soutien de l'économie russe au moment. De l'autre côté, on travaille beaucoup avec les pays de l'Asie centrale, comme le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan, qui sont les pays les plus touchés. Seulement un pays comme l'Ouzbékistan a plus qu'un million de travailleurs dans la Fédération russe au moment. Alors, si on retourne dans les pays, il faut commencer à préparer des programmes d'emploi à l'intérieur de l'Ouzbékistan pour essayer de réintégrer les travailleurs qui sont partis pour travailler dans la Fédération russe et les réintégrer dans le monde du travail de l'Ouzbékistan, qui est un pays qui a un bon taux de croissance, il est bien engagé avec les questions de travail décent, il a un secteur textile qui est en train de grandir. Alors, il y a des possibilités là pour aider la réintégration des travailleurs qui sont maintenant au dehors de l'Ouzbékistan ou des autres pays de l'Asie centrale.
C'est des efforts que vous menez avec d'autres organisations comme l'OIM, par exemple?
Oui, bien sûr. Nous, on travaille avec l'OIM pour les questions des migrations et on travaille aussi très prochement avec d'autres commissariats de réfugiés pour les questions des réfugiés qui sont des réfugiés ukrainiens, qui sont maintenant dans des pays comme la Moldavie, qui sont des pays qui n'ont pas une structure énorme pour accueillir et ne sont pas membres de l'Union européenne. Alors, on travaille avec certains pays dans le Caucasus et dans l'Europe orientale pour essayer d'offrir un soutien humanitaire immédiat aux travailleurs et aussi de l'autre côté pour essayer de les intégrer dans les marchés du travail des pays ou de faciliter le transit dans les pays de l'Union européenne.
Merci beaucoup.
Merci à vous.